Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir un habitué des lieux, l'artiste Alain Kleinmann. Bonsoir Alain.
Bonjour Sandrine.
On ne vous présente plus sur l'antenne de Radio Shalom, vous êtes ici chez vous. À mon sens, votre œuvre est la plus remarquable de la période contemporaine. On y décèle des ponts de différentes natures édifiées entre le sujet et la technique, la tradition et la mémoire, l'histoire et l'actualité, la récupération et des matériaux nobles. On pourrait encore étirer à l'envi la liste des liens que vous recréez, vous jouant des oppositions communément admises, dont celui entre un monde pensé exigeant, celui de l'art et le grand public. Et votre actualité, justement, illustre cette manière de rendre accessible l'art à tout public. Il s'agit de la parution d'une Agada de Pessard que vous avez entièrement illustrée. Un événement à la portée de tous, on va en parler dans un instant. Donc 120 œuvres originales accompagnent le récit de la sortie d'Égypte prononcée lors du Cédar de Pessard. On y retrouve les versions du rite ashkénaze et séfarade avec la phonétique, sa traduction et ses explications en français pour mettre tout le monde d'accord sur le récit à suivre. Alors la première question qui s'impose, Alain Kleinmann, d'où vous est venue l'idée de cette Agada ?
Alors, j'avais il y a quelques années illustré, mais de manière beaucoup plus allusive, enfin, une Agada pour le Rav Eman de la Yeshiva d'Épinay. C'était un objet assez luxueux et j'avais envie de continuer ce travail-là en permettant quand même à ce que cette Agada soit beaucoup plus populaire. Donc je tenais par principe parce que le prix ne dépasse pas 26 euros qui est un chiffre symbolique bien sûr et qu'elle puisse largement être sur les tables des Sédarim. Et aussi il y avait un certain nombre d'illustrations, mais à mon avis pas beaucoup, et j'avais vraiment envie que chaque page des textes soit face à des images et à quelque chose qui nourrisse aussi bien l'aspect visuel que l'étude de tous ces textes. Et en fait ça a été un très long travail de 3 ans, mais qui me tient très à cœur. Et voilà, j'ai enfin terminé il y a quelques semaines le travail et c'est actuellement sous presse.
Alors Mazel Tov, hein, déjà, et on reparlera dans un instant du prix modique, hein, de 26 euros, bien en deçà de la valeur qualitative et concrète de ce bel objet. Alors concrètement, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se compose la Agada ? Est-ce que c'est les œuvres qui illustrent le texte ou est-ce que c'est l'inverse ? Combien de pages ? Comment ça fonctionne ?
Alors effectivement, c'est les œuvres qui illustrent le texte, qui lui est pérenne, important, et j'ai pas l'immodestie de penser que les images sont plus importantes que le texte, évidemment. Sur la question des textes, j'ai toujours été surpris, par exemple, au table de Zarim, que chacun avec sa Agada se trouve avec des textes différents, et on voyait pas pourquoi dans un cas il y avait tel ordre, dans l'autre tel autre. Donc j'ai par exemple élucidé un peu le mystère en me rendant compte tout simplement qu'il y avait un rituel séfarade et un rituel ashkénaze, et en général c'est jamais indiqué, donc on se trouve dans une sorte de contradiction. C'est quelque chose de simple que Manishtana, il y a des inversions, on ne sait pas pourquoi il faut lire ceci à la place de cela ou avant cela. Et en fait, je tenais d'abord à ce que tous ces aspects-là soient clarifiés. Donc il y a cette Agada comporte de manière très lisible le rituel séfarade, et quand il est différent du rituel ashkénaze, le rituel ashkénaze. Et à ce moment-là, chacun peut, selon son désir, lire un texte qu'il identifie clairement. Je voulais aussi, pour que ça soit grand public, comme vous l'avez dit, que qu'il y ait une version phonétique pour que celui qui ne lise pas l'hébreu puisse quand même participer au CEDER. Les commentaires, évidemment, c'est indispensable pour savoir comment les choses se déroulent et pourquoi. Évidemment, le texte hébreu, sa traduction française pour que ça signifie quelque chose, bien sûr. Et puis les images, comme vous l'avez dit, il y a environ 120 illustrations, ce qui est beaucoup, mais ça permet de naviguer à la fois dans ce monde des textes, des interrogations, des échanges de cette nuit-là, et dans quelque chose de visuel, une sorte d'ambiance liée à mon univers, si on peut dire. Mais j'ai trouvé que très naturellement les choses pouvaient coexister et trouver une rime comme ça. Je dois dire aussi que c'est un des seuls textes traditionnels que nous ayons qui historiquement a toujours suscité des illustrations. Donc c'était un rendez-vous formidable pour un peintre que de s'atteler à cette tâche-là. C'est-à-dire après il y a peut-être la Megillat Esther qui est de manière plus légère et souvent ornementée comme ça de dessins, mais la Haggadah a toujours eu très spécifiquement cette possibilité-là, et donc j'étais très très heureux de pouvoir m'y mettre aussi.
Alors vous l'avez dit, hein, on le répète, c'est vraiment un bel objet qui rend lisible le céder de Pessard, qui est souvent très compliqué avec les nombreuses versions qu'on peut avoir dans les ouvrages. Et là, tout y est, hein, les différents rites, la phonétique, la traduction et les explications. On connaît Alain Kleinman, l'artiste, dont la sincérité lui a permis de développer une œuvre qui plaît universellement, mais on connaît moins celui qui est proche des textes de la tradition juive et notamment quelque chose qu'il a transmis assez très proche. Alors, il y a vraiment beaucoup de questions à vous poser sur le sujet, mais une que j'aurais aimé vous poser depuis longtemps, est-ce que cet attachement à l'étude est né pendant votre enfance ou est-ce que vous l'avez découvert plus tardivement ?
Alors, je suis issu d'une famille ashkénaze d'après-guerre, et dans ces cas-là, vous le savez comme moi, il y a eu toutes sortes de réflexes, dont celui, par exemple, d'essayer que ses enfants soient le plus français possible, les moins reconnaissables par un accent yiddishisant ou autre. Ma grand-mère, par exemple, qui était d'origine russe, n'a jamais voulu apprendre le russe à ma mère pour ne pas que dans l'autobus, on puisse la soupçonner d'être étrangère ou différente. Donc en fait, j'ai fait ma bar mitzvah au consistoire comme tout le monde, mais je ne peux pas dire que j'ai eu une éducation spécifiquement juive de textes et de choses comme ça. Et j'ai eu la chance de rencontrer, quand j'avais environ 18 ans, une personne avec qui j'ai beaucoup étudié, qui s'appelait Olga Katenal, que vous avez connue aussi par vos travaux.
Alors justement, Alain, si vous me le permettez, je voulais que vous prononciez ce nom. J'allais vous poser une question, mais vous le faites, parce que c'est un nom qui est rarement évoqué, celui de l'intellectuelle juive Olga Katenal, qui est née en 1900, qui est décédée en 1988. Elle était votre tante, et oui. Sa destinée d'érudite rejoint celle de toutes les grandes figures de l'école de pensée juive de Paris à la Libération, et pourtant elle reste encore malheureusement méconnue. L'audace de son parcours de femme inscrite dans la modernité juive est vraiment exceptionnelle. Alors vous l'avez dit, hein, je la cite dans mon prochain livre, parce qu'elle a côtoyé les milieux d'érudition liés à Joseph Gottfried Stein, notamment, qui a hébergé Chouchani à Paris. Et puis, j'aurai la chance de pouvoir en parler en mai dans une conférence, dans un cycle de cours sur les femmes dans la modernité à la Libération. Alors, la question, voilà, qui s'impose aussi, hein, quel rôle elle a joué dans votre formation intellectuelle et religieuse, notamment ?
Alors, un rôle fondamental, c'est-à-dire elle m'a dit croire ou ne pas croire, c'est l'affaire de chacun. Par contre, ne pas savoir, c'est impardonnable. Elle me dit, tu sais qui étaient Baudelaire et Victor Hugo, mais tu ignores qui était le Maréchal de Prague ou Rachi. Et bon, c'est un argument effectivement indémontable. Et elle m'a dit, si tu veux, viens, on va commencer à étudier ensemble. Ce qu'on a fait, bon, c'était une personne absolument remarquable, et donc ça a tout de suite représenter pour moi toute la exactement le ce qui me différenciait de mes petits copains de d'école, de ce qui était les bribes de pensée ou de sensibilité que j'avais, mais sur lesquelles je ne savais pas comment les développer, comment les pousser plus loin, où trouver les sources, les différences, les identités que je pressentais. Et donc en commençant à étudier avec elle, ça a été tout de suite une sorte d'illumination sur un certain raffinement de pensée, un ressourçage historique, métaphysique, philosophique. Et au bout d'un moment, elle m'a dit, écoute, moi je veux bien continuer de t'enseigner, mais maintenant il faut le faire d'une manière un peu plus approfondie. Et elle m'a dit, on parle beaucoup à Paris d'un grand maître qui est le Rouve, le Rav Rotenberg, Zichrono Levracha, qui donc dirigeait la yeshiva de la rue Pavée, et j'ai été un peu naïvement le voir en lui demandant si je pouvais apprendre auprès de lui, et voilà. Donc j'ai fait un effort parce que j'étais très peu formé de ce point de vue-là, et donc j'ai eu beaucoup de chance d'entrer dans cette structure-là qui est absolument remarquable. Et puis par la suite, donc ça s'est développé à droite et à gauche. Je n'ai pas la prétention d'être un Talmid Chacham, mais j'ai fait ce que j'ai pu pour essayer de combler les manques que j'avais. Et c'est sûr que cette Agada est une conséquence et un reflet de ces moments-là. Et en tout cas, on a eu l'occasion précédemment de parler dans l'atelier d'Olga Katounal, et j'ai été très ébloui de voir que par tes recherches personnelles, par vos recherches personnelles, je ne sais pas sur ce tuto ou non, tu avais abouti aussi à la découverte de tout ce groupe qui était formidable, enfin quelqu'un comme Gottferstein dont tu parles, ça faisait partie de l'entourage immédiat.
Oui, Emmanuel Raïs, enfin il y en a beaucoup
Raïs,
d'autres.
Bien sûr, oui.
Et j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler plus longuement. Alors l'autre question aussi, alors je sais hein, que vous n'aimez pas trop qu'on explique votre travail, mais est-ce que vous percevez dans vos réalisations comme un prolongement de l'étude des textes ? Est-ce qu'il y a un peu de cette idée-là ?
En tout cas, il n'y a pas d'antagonisme, et par ailleurs, je crois qu'on peint avec tout ce qu'on est profondément. C'est-à-dire, c'est un langage des profondeurs où se reflète ce qui est marquant dans la vie de quelqu'un. Donc, évidemment, il y a quelque chose de l'ordre d'une connexion immédiate, puisque je fais de la peinture, mais je suis comme tous les autres peintres d'ailleurs, celui que je suis, donc je peux pas être dans une schizophrénie qui mettrait des parties de mon identité d'un côté et mon travail de l'autre.
Et d'ailleurs, certains ont vu hein, dans la composition de certaines de vos œuvres, eh bien, comme une page de Guémara avec le sujet principal au centre et les commentaires, les explorations
absolument,
tout autour.
Oui, c'est Laurence Figal, qui était donc conservatrice du Musée d'art et d'histoire du judaïsme, qui avait écrit un très beau texte, et elle parlait de ça, et ça a été une certaine surprise pour moi aussi de la lire, parce que c'est assez juste. Enfin, ça fait partie des choses que quelqu'un peut dire sur la peinture de quelqu'un d'autre, et que celui qui l'a fait a du mal souvent à identifier.
Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, en compagnie de l'artiste Alain Kleinman, qui nous parle de sa Agada de Pessar. Vous avez choisi, Alain, de proposer un objet d'art à un prix extrêmement accessible, celui symbolique de 26 euros. On l'a dit, hein, le coût de l'objet est bien au-dessus de sa valeur marchande, hein, celui par lequel vous le vendez. Pourquoi ce cadeau, Alain ?
D'abord, encore une fois, c'est quelque chose qui me tenait très à cœur, et je voulais pas gagner de l'argent sur une opération comme ça. Je vais essayer de ne pas en perdre, mais enfin, je voulais surtout qu'elle soit éditée, avec une certaine quantité d'exemplaires, et qu'elle puisse être vraiment sur les tables de Pessar et servir à quelque chose, si on peut dire. Donc ça a toujours été ça ma visée là-dessus, et j'ai maintenu le cap. C'est vrai que les gens qui vont la diffuser et tout m'ont tous suggéré de quasiment de doubler le prix, mais c'était pas l'objet.
Alors il y a un autre cadeau que vous offrez aux auditrices et aux auditeurs de Radio Shalom, une dédicace personnalisée à celles et ceux qui signaleraient le mot de passe de la radio Radio Shalom sur votre site internet. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Oui, alors d'abord avec plaisir, je ferai ça. Mon site, ça s'appelle alainkleinman.com, tout simplement. A-L-A-I-N-K-L-I-N-M-A-2-N. Ne me demandez pas pourquoi tant de N. .com, donc. Et dans les contacts, il suffit de m'écrire, ça me revient sur mon mail, et à ce moment-là, je peux expliquer, les gens n'en diront plus, et je peux expliquer comment opérer.
Alors, après ce qu'on vient de dire, hein, tout le monde va avoir envie de se procurer cette Haggadah d'Alain Kleinman. Comment on fait concrètement ?
Alors, le mieux, c'est effectivement de m'envoyer un petit message sur le contact du site, et puis j'y répondrai. Les personnes me donneront leur nom, adresse, je leur expliquerai comment faire, et puis voilà.
Alors, on rappelle aussi que simplement, si on tape Alain Kleinman sur Internet, eh bien, votre site apparaît, et il y a très facilement l'onglet contact, où on peut s'adresser à vous, puisque vous recevez ces messages directement chez vous.
Voilà.
Être artiste peintre en période de coronavirus, est-ce que c'est une difficulté supplémentaire, Alain ?
Alors, il y a plusieurs aspects, c'est-à-dire dans le fait de peindre, je dois dire que ça fait des années par mon activité que je m'auto-confine, pour utiliser du vocabulaire à la mode, c'est-à-dire que je suis seul dans mon atelier et je travaille, donc on peut pas dire que la situation sanitaire générale fasse une grande différence. Cependant, évidemment, comme tout le monde, je suis très sensible au climat général qui entoure tout ça, donc cette espèce d'atmosphère de menace, de résistance, de détresse psychologique tout autour, évidemment, je dirais, influence la sensibilité du quotidien, donc l'état dans lequel on est pour peindre. Alors je serais tout à fait incapable de dire quelles sont les différences que ça a produit dans le travail lui-même. Structurellement, si on peut dire extérieurement, j'ai dû annuler quelque chose comme 5 expositions, donc il n'y a pas de vernissage, il n'y a pas d'exposition, mais ça c'est le côté, je dirais, social de l'activité. Pour le côté intérieur, objectivement ça ne change pas grand chose, subjectivement bien sûr que les uns et les autres sommes tous perturbés par la situation et les questionnements qu'elle induit.
Et sur le contenu, sur l'inspiration, est-ce que ça peut transparaître dans vos réalisations à venir ?
Alors, à venir, évidemment, j'en sais rien. C'est-à-dire, si je le savais, j'y serais déjà. J'ai justement choisi d'appuyer tout ce travail sur la Gada pendant cette période, qui me semblait justement une sorte de lueur d'espoir. La sortie d'Égypte, ça signifie beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est pas un événement historique dont il faut se rappeler. Il faut avoir l'impression ce soir-là de sortir chacun de nos propres Égyptes, c'est-à-dire de tous les lieux qui
desquels on est dépendant. De tous nos lieux d'asservissement, oui.
Voilà. Oui. Et à vrai dire, curieusement, cette période est une sorte d'espoir pour le monde entier d'une sortie de l'Égypte que représente cette menace mondiale. Donc, à vrai dire, il y avait symboliquement, il y a peut-être une sorte d'adéquation entre les deux activités. En tout cas, ça, c'est un projet que je portais depuis plusieurs années et je l'ai mené avec toute la positivité que je pouvais y mettre. Donc ça a été pour moi aussi une source de résistance contre l'espèce d'atmosphère lourde, ambiante.
Espérons que ça accompagne cette sortie, cette Agada, hein, le récit de la sortie d'Égypte, et bien la sortie de crise également. Il y a une question, il y a une question classique, mais néanmoins difficile dans cette émission pour conclure. Si en une ou deux phrases, vous deviez donner envie aux auditrices et aux auditeurs de Radio Shalom de se procurer votre Agada de Pessah, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire ?
Eh ben, à un moment donné, de la voir en librairie ou ailleurs, et si ça les convainc de l'utiliser pour Pessah, le mieux c'est la rencontre avec l'objet lui-même, parce que j'ai mis des années à le concevoir. C'est difficile pour moi de dire c'est très beau, c'est très bien, mais j'espère qu'il saura convaincre ceux qui souhaitent être convaincus par ce qu'il est en soi. C'est-à-dire, moi j'ai fait au mieux en tout cas de ce que je pensais pouvoir faire.
Alors moi je m'autorise à le dire, hein, c'est à la fois un bel objet qu'on ne peut évidemment que recommander, en plus avec une dédicace pour ceux qui le souhaitent, et puis surtout une Agada facile à suivre qui permet pour une fois de lever toutes les contradictions quand il y a plusieurs personnes de rites différents à une table du Seder. Donc il y a un magnifique objet à s'offrir et puis à offrir aux autres, évidemment. Alors merci mille fois Alain Kleinman d'avoir évoqué avec nous votre actualité, l'apparition de la Agada de Pessah que vous avez illustrée. Et on se dit à très bientôt.
À très bientôt, Sandrine. Merci beaucoup et bonne fête de Pessah à tous les auditeurs.
Merci.
Au revoir.